C'est le 30e dimanche du temps ordinaire. Dans le mode de l'immense tradition de l'Église, c'est le 30e dimanche du temps du Saint-Esprit. C'est le dimanche de l'humilité. L'évangile de l'humilité, celui qui s'abaisse, celui qui sera abaissé, le pharisien, le publicain. C'est le curé d'Ars, un curé d'Ars, je me rappelle toujours ce que disait le curé d'Ars. Il disait au ciel, il n'y a pas un seul orgueilleux. Et en enfer, il n'y a pas un seul humble. Ah, en enfer, il y a des gens de chasteté qui ont une vie menée admirable. Ils ont chassé les démons, ils ont été sur les places, ils ont été. Mais en enfer, l'humilité, non. Une vertu qui n'existe pas. Et au ciel, les gens qui ont été pécheurs, qui ont fait n'importe quoi. Mais il n'y a aucun point d'orgueil à l'intérieur d'eux. Rien que ça, ça suffirait. Non, hein. On devient progressivement. Parce que l'humilité, c'est une vertu, c'est une qualité de l'âme, c'est une qualité de l'esprit, c'est une qualité du cœur. C'est une qualité des puissances spirituelles qui sont en nous, une qualité de la mémoire. C'est une qualité de la mémoire, c'est les premiers instants de notre existence dans la conception. Les premiers instants, on ne sait pas combien de temps ça a duré quand on a été conçu par Dieu. Hein? L'Immaculée Conception, ça a duré combien de temps? Notre conception, elle a duré combien de temps, si je puis dire, c'est ça? Mais c'est sûr qu'il y a eu un temps d'humilité parfaite. On a commencé comme des êtres d'humilité, substantiellement, comme on dit. On est arrivé à l'heure. Premier degré d'humilité, vous connaissez Saint-Benoît, les 11 degrés d'humilité. C'est l'autre qui passe devant. Tant que tu le précèdes, celui qui arrive en Saint-Benoît, celui qui arrive en retard à l'office. Hein? Tu as un rendez-vous avec le pape, tu vois. Bon, ça va, j'ai encore 5 minutes. Le pape attendra 5 minutes. Ça veut dire que je suis au-dessus du pape. Premier degré d'humilité. Celui qui n'arrive pas. Ça veut dire qu'il n'a même pas atteint le premier degré d'humilité. C'est la règle des bénédictins. Là. Tous les soirs, on lit la règle de Saint-Benoît, chez les cisterciens, chez les trappistes, chez les bénédictins. C'est une espèce d'ascension. Alors, on a commencé dans la mémoire, dans notre mémoire. On est créé par Dieu, et puis notre âme, immédiatement, se trouve elle-même dans une... Elle existe dans une unité, disons, de lumière, mais elle ne se regarde pas elle-même, elle ne regarde que ce qui est devant elle, à l'intérieur d'elle, dans la créature de Dieu. Et elle a une grâce, comme dit le pape Jean-Paul II, une grâce d'innocence divine originelle, une grâce d'innocence divine parfaite. Il y a une unité vivante de grâce originelle avec l'innocence divine originelle. C'est une grâce. Dieu et nous, on est un dans en un, et on est entièrement dans l'autre. C'est ce qui fait notre unité d'ailleurs. Avant la propagation du péché originel, avant que le péché originel ne vienne se propager sur ce diamant qui est comme un soleil dans la neige, la présence créatrice de Dieu, combien de temps ça dure? Un jour on le saura, ça. Combien de temps ça dure? Est-ce que ça dure 9 jours? Est-ce que ça dure 9 heures? Est-ce que ça dure une demi-heure? Donc l'humilité, c'est une qualité de la mémoire, une qualité de l'innocence divine originelle. Et elle est établie, elle nous établit pour grandir, pour être transformé. Et arriver jusqu'à l'humilité substantielle, puisque l'humilité surnaturelle, divine, parfaite. Il y a un phénomène dans la vertu d'humilité, comme on voit dans saint Benoît, le dernier degré d'humilité, il y a une aspiration, celui qui est humble, dans l'humilité accomplie, en plénitude. L'humilité est tellement elle-même, en sa plénitude en lui, qu'il y a un phénomène d'aspiration. Et tous ceux qui s'approchent de celui qui voit quelqu'un qui est humble, dans cette humilité du dernier degré, ce quiconque le regarde seulement, il suffit qu'il le regarde, aussitôt, il est aspiré, il rentre et il devient humble lui-même à son tour. Cette humilité-là est lumineuse, est absorbante. C'est l'humilité de la Jérusalem immaculée et accomplie du cinquième sceau d'Apocalypse. Et l'humilité est objet de contemplation. Quand on contemple, c'est vrai, quand Dieu a vu l'humilité, regardez, quand dit Magnificat, Marie, elle va dire Magnificat, dès qu'elle se trouve en communion les uns avec les autres, à la visitation, voilà, ils sont cinq, aussitôt qu'elle est en communion avec les autres, elle dit, mon âme, c'est l'humilité, c'est une espèce d'exultation, une exultation de l'esprit, de la lumière spirituelle à l'état pur, une exaltation de l'âme, c'est toute l'âme qui se dilate aux dimensions de la vastitude de Dieu. C'est un vol de l'esprit dans le cœur, à l'intérieur de Dieu. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Alors Dieu, mon sauveur, rien ne vient d'elle, tout vient de Dieu, du salut, du Rédempteur, Jésus crucifié, le pauvre par excellence, éternellement pauvre. Pourquoi est-ce que mon âme exulte dans l'humilité, s'exalte? Pourquoi? Parce que Dieu a posé son regard sur l'humilité de sa servante. Et Dieu a vu l'humilité. Il a vu, il s'est englouti, il est rentré dedans et il a pris chair. Il s'est assumé. C'est la spiritualité de l'Immaculée Conception. Quand Dieu a vu l'Immaculée Conception, dans ses premiers instants, il s'est englouti, il a pénétré, il a pris chair, il a pris possession de la nature humaine en cet instant. Il a trouvé ses délices éternellement. Il a été le rédempteur du monde entier. C'est l'humilité. L'humilité du Christ. Le Christ, quand il a pris chair. Jésus, il le dit. Hein. Une fois, il parle des qualités qui sont les siennes dans son cœur brûlant d'amour. Il dit, mais dans la douceur, c'est-à-dire l'onction, l'huile parfumée, l'huile pérenne qui descend de l'arbre de vie. Dans la très sainte Trinité glorieuse qui s'écoule avec le vin. En toutes les intériorités, la paternité de Dieu. Oh là là, la douceur, l'onction messianique. L'huile qui coule. Ah, je suis doux, la douceur. Je suis l'huile qui coule. Pourquoi? Parce que je suis humble de cœur. La seule qualité de vertu spirituelle et incarnée dont Jésus parle à propos de son cœur, c'est l'humilité. Je suis tout humble de cœur. Isaïe l'avait dit, réplé vite, et homme, il sera surabondance d'humilité, dans la délicatesse de l'humilité et de la crainte de Dieu. Et les deux humilités se conjoignent avec la nôtre. Quand le Verbe de Dieu illumine notre vie intérieure, liberté absolue, notre clarté, notre innocence divine originelle, ben cette humilité-là, elle est faite pour au l'intérieur du Saint-Esprit, à l'intérieur de la nature humaine, pour les délices de la paternité vivante de Dieu. Je crois que le quatrième degré, il me semble me rappeler que le quatrième degré de l'humilité, c'est dès que il y a une chose humiliante à faire, mais vraiment humiliante. Vite, je me précipite. Et je le fais avec à l'intérieur de moi une joie, ça me donne un bonheur de faire un truc humiliant, humiliant, que personne ne veut faire. C'est beau les degrés d'humilité de Saint-Benoît. Et sans s'arrêter, continuellement, continuellement, sans s'arrêter. L'humilité se nourrit elle-même dans une humilité toujours plus profonde. Et elle nous enfonce à l'intérieur, elle nous apaise. Et elle s'éclate. Elle s'éclate dans le fond dans lequel elle est descendue. Dans l'acte pur du Saint-Esprit, la charité. Bon, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et aussitôt, donc, l'Immaculé, dans son Immaculée Conception, dans ces moments extraordinaires, est-ce que ça durait 19 jours jusqu'à la nidation? On le saura de toute façon un jour, ça. On sera révélé. C'est pour ça qu'on fait oraison, d'ailleurs. Pour l'union transformante. C'est pour être en galoutis. Ah! Notre âme dans l'humilité de Jésus-Christ, dans son premier instant d'intérieur humain, qui se conjoint dans l'Immaculée Conception qu'il a lui-même produit au pied sur la croix, au moment du dernier souffle qui a traversé l'humilité de sa servante transférée dans le glaive qui a transpercé de part en part dans son cœur immaculé. Il est rentré dans l'océan, dans l'univers, dans le royaume de la croix glorieuse. Les anges l'ont précédé en disant « N'ayez pas peur, ouvrez toute grande vos portes au Christ. » Il est allé se conjoindre, s'engloutir dans l'humilité de Saint Joseph. Et il a contraint l'enfer comme un point minuscule. Il a été encore plus profond que l'enfer. Saint dessein, la paternité vivante de Dieu, il a créé la lumière de gloire de la vision béatifique. Il a créé le royaume glorieux de l'humilité. Il a remis son esprit, le souffle, il a remis à traverser cette double humilité, cette triple humilité. Et du coup, Marie s'est retrouvée là, au pied de la croix, debout. La conjonction des trois pauvretés substantielles à l'état pur s'est réalisée là. Et lorsque nous avons raison, nous nous laissons du fond de nous engloutir pour nous écouler merveilleusement, délicieusement à l'intérieur de cette triple humilité. Marie, quand elle s'est retrouvée au pied de la croix, à cet instant-là, la transverbération, à un moment de la blessure mortelle, il y a eu l'eau, l'Esprit Saint, il y a le vin et l'eau, l'huile et le sang. Elle s'est retrouvée à l'intérieur de l'instant où Jésus, où Dieu l'a créé comme Immaculée Conception. C'est dans le cantique des cantiques. C'est le cantique, c'est l'exultation universelle et éternelle. L'acte pur du Saint-Esprit est venu acter tout ce qui son Immaculée Conception est en puissance à ce moment-là. Ah, je te tiens, je te lâcherai plus. Ce point d'humilité là, je te lâcherai plus que je t'ai fait entrer dans la chambre de ma mère, dans le lit, celle qui m'a conçue. Elle s'est trouvée devant l'instant de la conception qui est la sienne, c'est Jésus. C'est extraordinaire le dogme de l'Immaculée Conception, c'est Jésus crucifié qui a créé. Et on se trouve devant l'instant de la création de l'Immaculée Conception. Elle s'est retrouvée à ce moment-là en face de l'instant de sa conception. Et elle s'y est laissée aspirer. Et c'est ainsi que la Mère de Dieu a engendré dans le Christ Jésus notre Seigneur la, l'océan, l'univers de la croix glorieuse, le monde angélique qui a été aspiré, comme dit l'oraison, à la fête de la croix glorieuse. Ouvrez tout grand de vos corps, devant Christ. Tout a été comprimé. Et cette aspiration a fait de nous, dans l'humilité, la fameuse aspiration de la nature humaine et de la création tout entière dans l'humilité du 12e degré d'humilité de Saint Benoît. C'est le contraire de s'exalter, quoi. On s'exalte dans... Ah. Je crois que c'est le 6e degré d'humilité que mon vieux père Emmanuel me répétait toujours, parce que il trouvait que je m'exaltais un petit peu trop, parce que je riais facilement. Quoi. Alors il dit, bon, enfin, stultus in risu, même dans le 6e degré d'humilité de Saint-Benoît. Stultus in risu, exaltat, votem suam. Mais c'est le crétin, c'est la stupidité à l'état pur. Celui qui n'a plus rien d'autre solution pour exalter, pour s'exalter, que de rire à haute voix. Stultus in risu, exaltat. Eh oui, il ne sait plus comment s'exalter pour me montrer qu'il est là. Alors il rit. C'est stupide. Stultus in risu, exaltat. Il trouve plus en quoi faire.
C'est vrai, t'es coincé, c'est vrai, c'est psychologiquement, c'est très juste.
Tu es coincé, tu dis, alors bon, allez, tu veux un gros rire, tu veux rire, voilà. Et comme ça, ça te permet de sortir de la situation. Mais c'est une exaltation. Ta voix se fait entendre. C'est évidemment un acte d'ordre. Le 7e acte de l'orgueil. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un bénédictin, un trappiste, et un cistérien, éclater de rire pendant la récréation. Jamais, jamais, jamais. Ah, un sourire intérieur qui aspire. Alors on se tourne. Aussitôt Marie, du coup, dans son Immaculée Conception, qu'est-ce qu'elle a fait? En réalité, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de courir comme ça, pour aller jusqu'au sommet auquel elle était prédestinée, elle s'est retournée. Et elle s'est engloutie dans tout ce qui scrute les profondeurs de la paternité vivante de Dieu. Dans l'intériorité de la paternité essentielle et substantielle de Dieu. Il a parcouru comme ça. Elle s'est établie. C'est-à-dire comme ça, petit à petit, son humilité l'a établie dans l'Assomption. Elle était assumée dans tout ce qui creuse les profondeurs du Père. Et c'est comme ça, petit à petit, jusqu'à, pendant 19 ans, jusqu'à ce que, pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'elle ait été complètement assumée. Et cette Assomption a permis la maternité divine de Marie. Pour que Dieu s'engloutisse dans cette humilité assumée dans le monde incréé de la paternité de Dieu. Et s'y engloutissant dedans, il a pris chair. Il s'est exalté. Il a dit, faites ceci dans ma mémoire. Je trouve ça magnifique, moi, ça. Que chaque Eucharistie dans la maternité divine de Marie et le oui originel de toute la nature humaine dans l'Eucharistie de Jésus fait que si on s'engloutit dedans, eh ben, ça provoque une aspiration de tout ce qui existe, de tous les êtres de vie qui viennent se désaltérer à l'intérieur de nous pour les délices éternels, les délices à jamais de la paternité de Dieu dans la nature humaine, dans l'unité de tous ces délices. Je me rappelle du Père Emmanuel. Un jour, il est venu au petit déjeuner après la messe, puis on était tous les ermites là-bas, à la Totoule. Il dit, oh là, j'ai eu un songe cette nuit, je suis bouleversé. Je me suis retrouvé, j'étais là,
Il dit, mais Seigneur m'a emporté, j'étais à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et là où il y a les grands saints là, qui sont là, à 15 mètres de hauteur, là, il y avait, là où se trouve Saint Jean Bosco. Là.
C'est vrai, hein, le dernier saint, là, c'est Saint Jean Bosco là-haut.
J'étais là, sur le pied. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et il y avait un monde, et ça allait jusqu'au Tibre, il y avait un monde fou, et le Saint-Père était en train de canoniser quelqu'un. Je dis, mais pourquoi je suis là? Et le Saint-Père canonisait, il dit, mais monsieur, ça doit être un grand saint celui-là. Je dis, mais, et alors, et le Saint-Père, je suis attentif, je regarde, et au moment de la canonisation, le Saint-Père dit, proclamamos, nous proclamons, mais qui ça peut être, hein? Proclamamos, infaillibilitatem nostram, sanctitatis, pater Emmanuel de Floris. Oh, c'est pour ma canonisation. Mais on s'occupe de ça. Alors je dis, c'est pas possible. Je suis le pire de tous. Enfin, c'est pas possible. Alors. Il a continué, Saint-Père. Il dit, propter,
ça veut dire à cause de quoi?
Propter, à cause de. Propter maximum humilitatem sua.
Oui. Et c'était pas pour nous faire rire qu'il disait ça.
Propter maximum humilitatem. L'humanité maximum.
Qui jamais. Enfin, qui existait. C'est sûrement pas. Eh bien oui, mais c'est vrai que quand. Un jour, l'ancien père abbé d'Agalca, qui était son frère, Don Marie d'Agalca, et lui était l'aîné dans la famille Jacques, il y avait Jacques, c'était le père Benet, et puis il est vient le voir. Il dit, mon frère est venu me voir comme vous l'avez vu là. Mais il m'a dit, je me sens vraiment rien du tout parce que je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans moi. Parce que j'ai en moi comme la certitude que c'est moi le dernier pape. Alors, je dis, mais ça tombe bien. J'ai exactement la même pensée d'ailleurs, j'en suis à ma troisième encyclique. Du coup, les deux ont compris qu'ils n'étaient pas. La troisième encyclique. Alors, tu regardais, du coup, tu sortais de l'Hermitage, puis tu voyais le père Jean. Alors, lui, c'est le pauvre, à l'état pur. À l'état pur. Pauvre à l'état pur. C'est beau, l'église, ouais. Et on parle souvent du grand monarque, vous savez, quand la Vierge, dans la douleur de l'Apocalypse, engendre un enfant masculin. Et le dragon est là pour empêcher de naître. Et en arrêt devant la femme. Et l'enfant est né quand même. Parce que la terre s'étant ouverte, elle a absorbé tous les fleuves du démon voulant engloutir l'enfant. Et cet enfant est emporté du coup au désert. Et il doit mener, avec un sceptre de fer, la croix glorieuse, il doit mener toutes les multitudes et toutes les nations avec un sceptre de fer, celui qu'on appelle le grand monarque, le véritable roi d'Israël, le véritable roi du véritable Israël de la fin, celui dont la grâce méritoire doit nous obtenir l'ouverture des temps du cinquième saut de l'Apocalypse, l'humilité à ce pouvoir méritoire. Ce qui caractérise, d'après l'Écriture et toutes les prophéties, le rang saint de la grâce méritoire d'ouverture des temps du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est l'humilité.
Dieu a pris chair et ça a donné Jésus. La miséricorde a pris chair, ça a donné l'Immaculée Conception. La justice, la tzedaka, un gré de Dieu, l'ajustement du Père, du Fils, Saint-Esprit, l'un à l'autre, a pris chair, ça a donné Saint-Joseph. L'humilité a pris chair, l'effacement de Dieu. L'effacement, l'humilité de Dieu a pris chair. C'est incarné, ça donne le grand saint. La grâce méritoire qui est celle qui nous est donnée à notre génération pour l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, que quelquefois on appelle l'illumination des consciences. J'aime pas ça du tout, personnellement. Mais non. Alors, il faut aimer d'un amour divin, infaillible, indissoluble, en plénitude, dans son accomplissement et l'acte pur du Saint-Esprit. Il faut sortir de nous et venir nous engloutir dans son cœur méritoire. Et là, il y a un amour, une charité qui doit nourrir, nous emmener, ouais, de la charité des derniers temps, de la charité méritoire des derniers temps, du temps de l'ouverture du royaume de Dieu, dans toutes les conceptions humaines, dans la nature humaine, tout entière. Vous savez, quand on fait une méditation dans le Monos Docendi sur l'humilité, il faut vite appuyer sur le bouton parce que sinon on ne s'arrêtera jamais. Mais c'est notre tourment, ça. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, rendez compte. C'est la grande dernière ligne droite qui est devant nous là maintenant. Il n'y a pas une seconde à perdre, pas une minute. Dans le deuxième degré du méditation benoît, on ne perd pas une demi-seconde. C'est continuellement. 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 Sans arrêter. Des jours. Continuellement, à chaque instant, à chaque moment, éternellement, et aussi du coup, dans l'instant présent, éternellement. Oh, que nous rentrons dans le royaume du cinquième saut de l'Apocalypse. C'est ça, la vocation surnaturelle du véritable Israël de Dieu, le royaume. Les enfants, ils y sont rentrés, ils passent devant nous pour ça. Ils sont en affinité avec cette grâce voilà, de l'accomplissement de tous les temps. C'est pour ça. Qu'il en soit ainsi, amen.